Libre Radio, la radio qui prend l'air et qui fait le beau temps. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes ensemble pour la dernière partie de cette émission, le troisième des communiqués que l'on voulait lire quant à la Big Biennale. On le rappelle, la Big Biennale, c'est aujourd'hui le 16, demain le 17 et dimanche 18, depuis la plaine de Plainpalais à Genève, avec moult artistes qui sont présents, plein de performances, des projections, des concerts également, vraiment plein de trucs intéressants, singuliers, des choses vraiment qui vont un petit peu dans tous les sens, c'est magnifique, ça vaut vraiment la peine, dans des conditions climatiques en plus parfaites et sous la protection de l'aigle perché sur sa vigie, un monsieur qui n'en descendra qu'à la fin du festival. Le programme intégral est disponible sur le site www.bigbiennale.ch. Voici la lecture du troisième communiqué. Genève s'étouffe, les mondes de l'art aux prises avec la ville capitaliste, de Luca Pataroni et Micha Pirot. C'est un texte expressément rédigé pour la Big. Il a été en juin 2015. En venant construire, déployer, planter son hameau culturel sur la plaine de Plainpalais, Big, la Big Biennale, nous rappelle que l'art n'est pas seulement une question d'inspiration individuelle ou d'œuvres ponctuelles, mais qu'il suppose tout un monde pour advenir. Un monde composé de matériaux divers, de tables, de chaises, de murs, de magasins et de galeries, d'acheteurs, d'intermédiaires et de publics, mais aussi d'un entrelac de vide et de plein, d'incertains et de convictions, d'idées et de rêves qui ouvrent autant de brèches dans la reproduction de l'identique. Un monde qui prend place dans le temps et l'espace de la ville. Un monde fragile car composé en deçà d'une frange bien assise dans le système de rentabilité du capitalisme, de tâtonnement et d'expérimentation non rentable, de bénévolat et de salaires d'appoint ou encore de friches et d'espaces abandonnés. Un monde qui dépend des capacités de celles et ceux qui le font vivre à trouver l'argent nécessaire pour se loger et se nourrir, pour s'approprier des espaces de création et de partage et en fin de compte, à dégager le temps indispensable pour créer un monde qui, dans une société régie par la rentabilité, devient de plus en plus dépendant des subventions publiques et privées dont il bénéficie. De fait, l'ampleur de ces subventions tient moins à l'évolution des pratiques artistiques qu'à celle du coût de la vie et en particulier la cherté de l'espace. Pendant les années 80 et 90, une part importante des mondes de l'art se nichait dans l'univers des squats et autres lieux au bénéfice de contrats de confiance. Ces lieux se feraient comme de véritables friches du possible, où l'on pouvait, avec très peu de moyens, beaucoup d'enthousiasme et de travail, non salarié, mettre sur pied les expériences les plus radicales, celles qui précisément peinent à trouver leur place dans la vie réglée de l'ordre marchand. Certes, l'existence d'un système de subventionnement demeurait nécessaire pour faire vivre pleinement les mondes de l'art, pour porter plus loin les projets et inscrire plus profondément la culture dans le désordre et dans l'ordre de la ville. Toutefois, une bonne partie des activités artistiques et culturelles se développaient sans subvention, en s'appuyant sur l'accessibilité d'espaces bon marché pour vivre et créer, des économies de la récupération et du recyclage, ainsi que des opportunités d'autofinancement, buvettes, fêtes de soutien, etc. Avec la disparition massive des friches du possible, durant les années 2000, c'est l'entier des mondes de l'art qui s'est retrouvé à nu face aux exigences de rentabilité de la rente immobilière et au durcissement concomitant des systèmes de contrôle. Cela s'est traduit en particulier par un accroissement des demandes de subventions nécessaires pour faire face à l'augmentation des coûts, loyers, démarches administratives, mises aux normes et j'en passe. De manière plus large, on assiste à Genève, comme dans la plupart des villes européennes, à deux grands processus qui fragilisent non seulement les mondes de l'art, mais aussi l'ensemble des activités peu, voire non rentables, tels les espaces de convivialité, les économies sociales et solidaires, etc. La croissance de la pression foncière et l'augmentation des exigences régulatrices. 1. L'augmentation de la pression foncière est due, d'une part, à l'importante croissance démographique qu'a connue Genève et son agglomération depuis les années 80, et d'autre part au fait que les biens immobiliers, et plus largement l'ensemble des objets urbains, sont devenus à l'échelle internationale une des cibles importantes du capitalisme financier dans sa recherche de profit. Dans ces conditions, les investisseurs sont à la recherche constante d'espaces en friche, promesses de bénéfices à venir, profitant en particulier tout en laissant advenir de l'engouement esthétique que l'on connaît désormais pour les ambiances à la marge. Cette situation a pour effet de faire monter en flèche le prix du sol, d'entraîner une véritable lutte pour l'espace où seules les activités et les personnes les plus légitimes parviennent à prendre pleinement place dans la ville. La disparition des squats à Genève a d'ailleurs été entraînée en grande partie par la relance à la fin des années 90 des investissements dans le domaine de la construction. Deux fonctions dominent alors le paysage urbain, le logement fonctionnel et l'activité économique de production et de commerce. On le remarque quand on voit les difficultés pour financer la production d'espaces communs ou dévolus à des activités culturelles. Ces dernières, mis à part les musées qui participent de l'attractivité internationale, sont reléguées bien souvent à des usages temporaires dans les vacances laissées par l'activité économique. L'éphémère devient le maître mot garantissant que les intérêts économiques ne soient pas durablement mis en cause. Le début des années 2000 a vu en même temps la consécration de ce que certains chercheurs nomment le gouvernement par l'objectif ou encore le capitalisme réglementaire. L'exercice du pouvoir passe ainsi par la délimitation d'objectifs clairement délimités auxquels sont associées d'interminables batteries d'indicateurs et tout un enchevêtrement d'évaluations de contrôle, tels des rapports annuels, des audits, des risk assessments. La production de la ville est fortement imprégné de ces nouvelles formes de gouvernement qui servent à la fois à donner des garanties aux autorités, aux investisseurs et aux usagers. Chaque bien garanti, que ce soit la mobilité, l'hygiène, la sécurité, la créativité ou encore l'intégration, produit dès lors son lot d'experts et ses attentes en matière de rapport et d'évaluation. Pèse alors sur les épaules des acteurs un fardeau quasi intenable. Il ne s'agit plus là d'une opposition entre le privé et le public. De fait, la charge administrative provient tout autant du marché et ses modèles d'audit ou encore de risk assessment que de la bureaucratie ayant achevé sa mue en new management. On le sent et le constate, un paradoxe habite ces politiques de la garantie. Plus on investit pour assurer une meilleure qualité de vie, plus on produit un cadre contraignant qui, au bout du compte, menace de se retourner contre ce qui est visé. La conjonction de ces deux processus produit un effet d'étouffement. Rareté de l'espace, dureté des contrôles, qui est très perceptible dans ce qui, au sein des mondes de l'art, ne s'avère pas directement commercialisable. Ces derniers n'échappent pas, en effet, au gouvernement par l'objectif. On a vu ces dernières années se multiplier les exigences accompagnant l'octroi des subventions. Quiconque a aperçu dans sa vie une convention de subventionnement s'est vu forcé de revoir de fond en comble toute sa conception esthétique, au point où les artistes et acteurs culturels doivent se former aux techniques managériales pour garantir les projets qu'ils déposent et le suivi des subventions qu'ils reçoivent. Il n'est pas rare qu'une association passe plusieurs mois à préparer un rapport annuel, cela souvent, voire toujours, en y consacrant du temps bénévole, ou encore, misère de l'austérité et du contrôle, ce même groupe peut se voir contraint à dépenser une partie du budget qui lui est attribué par les collectivités publiques pour satisfaire aux exigences des standards administratifs. Même s'il est normal que les subventions fassent l'objet de contrôle, il faut se poser la question de la juste mesure. On est désormais dans un système où toute activité implique de se transformer en manager, un système où les lieux et acteurs culturels sont tellement contraints qu'ils peinent à dégager le temps nécessaire pour nourrir des projets plus ambitieux ou encore des collaborations au-delà de leur pas de porte. Pardon, je m'éclaire avec l'écran, c'est pour ça. Il fait nuit. Face à la double contrainte foncière et réglementaire, les mondes de l'art tendent à se polariser entre des artistes et des acteurs culturels qui s'orientent sur le marché international et d'autres dotés des compétences et des réseaux nécessaires pour leur permettre d'obtenir les indispensables subventions. Disparaît toute une frange plus informelle et en frontière des mondes de l'art, ou plutôt de leur case désormais bien délimitée et garantie par les politiques de promotion de la ville dite créative. On mesure mal les conséquences de la disparition de ces marges nourricières, si ce n'est peut-être dans les départs de plus en plus fréquents d'artistes en quête de ville plus hospitalière, et à nouveau cette hospitalité ne se chiffre pas en montant des subventions. Sur ce point, il faut reconnaître la nécessaire générosité de Genève. Cet rétrécissement ne concerne pas seulement les mondes de l'art, il touche l'ensemble des activités et des expériences qui échappent à la fois aux logiques du marché et à la possibilité même de la règle. En effet, tout comme la créativité, on ne peut somme toute pas décréter la convivialité d'une ville ou encore l'aisance d'un habitant. On doit pouvoir offrir des marges de manœuvre plus grandes, laisser grandir les friches et leurs appropriations encore inconnues. S'ouvrir aussi au travail de l'expérimentation et la critique. Tout cela ne peut guère être garanti et la démultiplication des experts n'est qu'un pis-aller à l'engagement quotidien des citoyens et à l'action civique intempestive chère à Denis de Rougemont. En fin de compte, la Big Biennale vient nous révéler les contradictions d'une ville prise dans la spirale d'une concurrence internationale de plus en plus féroce. Il est temps désormais de faire face à ces contradictions pour tenter de sortir de l'impasse. Genève s'étouffe dans cette quête de garantie, véritable victime d'une hypertrophie légale et administrative rythmée par les impératifs impensés du marché et des normes. Comment alors retrouver les marges de manœuvre où s'inventent et mûrissent la différence et le désir de l'autre? Comment libérer les imaginaires critiques? Comment émanciper en somme les espaces de la ville? La réponse est à trouver en commun, en croisant les rêves de toutes celles et ceux qui font rimer créativité avec critique et ouverture des possibles. L'art, et plus largement la création au quotidien, pourront redevenir alors ces nécessaires lignes de fuite du monde capitaliste. Voilà pour le troisième et dernier communiqué « Genève s'essouffle, les mondes de l'art aux prises avec la ville capitaliste » de Luca Pataroni et Micha Pirro, texte rédigé pour la Big en juin 2015. Ces trois textes, on les retrouvera bien entendu dans leur intégralité sous une forme PDF sur le site de Libre Radio, www.libradio.org. Voilà, pour nous ce soir, c'est la fin. Nous nous retrouvons demain à l'occasion du direct de 14h à 17h pour le direct, de 14h à 18h demain et dimanche pour les interventions autour de la Big Biennale. On te le rappelle, la Big Biennale, c'est aujourd'hui, demain et dimanche sur la plaine de Plainpalais. Les informations, le programme, tout ça, c'est sur www.bigbiennale.ch, www.libradio.org également. Et on continue de remercier l'espace Kugler qui nous accueille ici. Retrouve-nous sur place. Ciao.